RMC, la boîte à souvenirs.
Brahim Asloum.
Bonjour à tous, je m'appelle Brahim Asloum, j'ai 40 ans, je suis un ancien boxeur, champion olympique, champion du monde, et ensemble, nous allons ouvrir ma boîte à souvenirs.
RMC,
la boîte à souvenirs.
Bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la boîte à souvenirs, votre émission durant les fêtes de Noël avec les membres de la Dream Team de 20h à 21h. Aujourd'hui, nous sommes avec Brahim Asloum. Salut Brahim.
Salut.
Durant une heure, nous allons ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs, se rappeler tes grands moments de boxeur, tes cicatrices, ta célébrité hors norme à un moment donné de ta carrière. Ton boulot est très simple. Face à toi, tu as une boîte, plusieurs papiers glissés à l'intérieur et au fil de notre discussion, tu vas pouvoir les tirer, ces petits papiers. Et puis dessus, il y a inscrit un mot, une date, un moment que tu vas nous raconter. Évidemment, comment tu te sens avant d'entamer cette boîte à souvenirs ?
Bah, je me sens assez bien, content de participer à ce jeu et de sans doute nous faire connaître un peu plus des auditeurs, donc c'est cool.
Exactement, nous allons te connaître encore mieux, ils vont, les auditeurs, te connaître encore mieux. On va débuter avec ton premier papier, tu peux le tirer, Brahim Asloum, et nous dire ce qu'il y a inscrit dessus.
Alors, 30 septembre 2000.
30 septembre 2000.
Ça, c'est une belle date.
Tu te souviens évidemment de cette date ?
Bah ouais, c'est ma deuxième naissance.
Ouais.
J'ai été champion olympique le 30 septembre 2000 à Sydney. Et c'est vrai que j'avais une vingtaine d'années, donc c'est un souvenir qui est sans doute le plus important de ma vie. En tout cas, l'un des plus importants de ma vie, parce que maintenant je suis devenu papa. Mais non, le 30 septembre, j'ai l'impression qu'on a allumé mon interrupteur. Donc j'ai pris conscience que le monde était merveilleux et qu'il y avait plein de belles choses à découvrir.
Tu es opposé à l'Espagnol Rafael Lozano. On écoute tout de suite, on revit ce moment. Cette deuxième naissance pour toi, Brahim.
Et vous pourrez crier de plaisir et de bonheur. 4, 3, 2, 1, 0. Il est champion olympique, Brahim Asloum, avec 13 points d'avance. Remarquable au combat. Il a pris sa revanche sur l'Espagnol et il est dans les bras de Dominique Nato. Brahim Asloum, regardez ce cri de joie, de plaisir, de bonheur. Il a gagné avec ce drapeau français magnifique, Brahim. Quel beau combat, applaudi par le public ici à l'Exhibition Center.
Deuxième naissance, mais c'est la moitié de ta vie actuellement. Tu as 40 ans, tu avais 20 ans à l'époque quand tu as décroché cette médaille d'or. Ça te fait quoi ? Ça te paraît loin de réécouter ça ?
Non, j'ai l'impression que c'était hier. Ma mémoire est intacte de ce côté-là. Cette finale, c'était ces Jeux Olympiques étaient assez fous parce que... Au départ de la compétition, j'étais pas spécialement le favori. Certes, j'avais fait des résultats durant les années précédentes. Je descends de catégorie. Et puis, moi, quelques mois avant les Jeux Olympiques, j'étais persuadé de faire une médaille. Mais persuadé, dû à la charge de travail que je m'étais infligé. Je me levais la nuit pour aller courir. Quand les autres dormaient, j'essayais d'en faire un peu plus. J'avais conscience que j'avais très peu d'expérience par rapport au niveau international. Moi j'arrive aux Jeux Olympiques, j'ai 70 combats amateurs quand mes adversaires en ont 150, 200, 300, j'avais conscience de ça, que j'avais manqué un peu d'expérience, mais j'en avais fait tellement en amont, j'avais tellement pas envie d'avoir de regrets et puis vous savez, à 20 ans je voyais pas plus loin que le bout de mon nez, donc pour moi j'étais prêt à mourir cliniquement sur le ring. Alors c'est dur de dire ça aujourd'hui avec mon vécu. Mais c'est vrai que sur le moment, j'étais prêt à mourir cliniquement. Je ne pouvais pas imaginer être battu. La seule manière d'être battu, c'est de me tuer sur le ring. Alors c'est dur de le dire de cette manière aujourd'hui, mais c'est ce que je ressentais à ce moment-là.
Il y a beaucoup d'athlètes français qui ont eu une médaille d'or, mais jamais cette reconnaissance, cette célébrité. La France tombe amoureuse, littéralement, de toi, et peut-être pour ce moment.
Son bonheur et sa joie, et les larmes ont coulé, énormément coulé chez Brahim Asloum. Mais quel plaisir, quel formidable champion.
Les larmes de Brahim Asloum durant la Marseillaise.
Ouais, c'était magique. Vous savez, vous avez toute votre vie. Alors j'avais 20 ans, mais j'ai toute ma petite vie qui est passé en image dans ma tête, quoi. J'ai tout revu, j'ai vu les moments de dureté, les moments où ma mère s'inquiétait, parce que ma mère ne voulait pas spécialement que je pratique la boxe. Elle me voyait rentrer de l'INSEP, donc de Paris à Bourgoin, amaigri, pas trop d'appétit. Vous savez, chez nous, notre nourriture est assez riche. Et quand t'es au régime, malheureusement, tu peux pas manger ce que te prépare ta mère. Donc elle se vexait. Elle était persuadée que j'aimais plus ce qu'elle me proposait. Et c'était juste qu'elle avait du mal à comprendre que j'étais au régime, que je pouvais plus, fallait que je me restreigne. Mais voilà, c'est tous ces moments-là où on m'accompagne à la gare, où on me laisse, où je pars. Voilà, bien évidemment que c'est des pleurs. Même si je me sentais comme un petit bonhomme, quand vous avez 16 ans et que vous vous retrouvez en internat et que vous faites quitter une famille nombreuse de 10 enfants. Bien évidemment que ça a été des moments très durs, mais à chaque fois que je pleurais et j'essayais de me remobiliser, la seule chose qui me rassurait, c'était Brahim, c'est pas grave, tu verras à la fin. Tu verras à la fin si ça porte ses fruits, continue à travailler.
Tu as compris pourquoi le public t'avait choisi comme ça ?
Je pense qu'il y a plusieurs paramètres. La première, c'est que ça faisait 64 ans qu'on n'a pas eu de champion olympique en France, donc 1936, Roger Michelot et Jean Despot. On a vu un petit bonhomme qui faisait 1m20, les bras levés, les cheveux décolorés, qui ressemblait à un dessin animé. Voilà, on n'imaginait pas ça d'un boxeur. Donc c'est vrai qu'on avait l'image d'un boxeur qui faisait 1m90, 100 kilos, le nez cassé, qui est pas capable d'aligner deux mots après l'autre. C'était sans doute une certaine génération. Et là, d'un coup, on voit un petit bout de bonhomme avec un franc-parler assez naturel, parce que moi, en réalité, j'avais rien à perdre. Vous savez, juste après ma finale olympique, je me retrouve dans un sas. Juste avant la grosse conférence de presse. Et c'est vrai que je suis un petit peu en panique parce que j'ai la presse mondiale qui est en face de moi. Et je me dis une seule phrase qui me réconforte. Et je me dis, Brahim, reste comme tu es. On t'aime ou on t'aime pas. Mais au moins, on pourra pas dire que t'as menti. Et en fait, je suis rentré dans la conférence de presse avec, je sais pas, sans doute un poids en moins, mais en me disant, ben voilà, montre qui tu es à la terre entière. Et je l'ai fait tellement naturellement en citant mon papa, en me prenant pour Spielberg, parce que avant les Jeux Olympiques, bien évidemment, il y avait que moi qui croyais à mon film. Et puis quand j'ai été champion olympique, je me rappelle l'une des premières phrases que j'ai dit en conférence de presse, je dis appelez-moi Spielberg. Je me suis pris pour Spielberg à ce moment-là. Donc
c'est une belle entrée en matière pour une conférence de presse, une conférence de presse mondiale. La fierté, j'imagine, pour tes parents. Bien ces sûr. Larmes sont aussi pour tes parents.
Bien sûr, bien sûr. Vous savez, cette médaille olympique, bien évidemment que j'en suis fier dû au travail que j'ai fourni. Mais cette médaille olympique m'a permis, en fait, d'emmener mon père et ma mère à l'Élysée. Et à l'époque, j'avais emmené mon maire de l'époque et mon grand frère aîné. Et mon papa, il parle pas beaucoup, c'est quelqu'un qui parle avec les yeux. Et on se regarde, et en fait, dans mon regard et dans son regard, moi, ce que je vais lui dire, c'est, papa, je sais qu'on se pose tous la question, quand on est un homme et un père de famille, de savoir si on a réussi notre vie. En sachant que mon père est arrivé en France à 14 ans, ma mère à 19, et j'imagine la difficulté pour eux de se déraciner, de venir pour essayer d'éduquer leurs enfants de la meilleure des manières. Ben moi, ça, dans mon regard, c'était « Regarde, papa, t'as pris une décision de venir en France, de nous élever de la meilleure des manières, de bien nous éduquer. Ben aujourd'hui, t'as réussi ton coup parce que ton fils est à l'Élysée et il est décoré par la Légion d'honneur, donc par le président de la République, M. Jacques Chirac, paix à son âme. » Et voilà, dans cette discussion que j'ai eue avec mon père, tout était dit à travers nos regards.
Ça pèse la célébrité à cet âge-là, quand on a 20 ans, on est jeune, on est champion olympique. Ça t'a posé un moment
donné ? C'est pas évident. C'est vrai que c'est... Vous savez, l'image que j'avais, c'était par moments, c'est que... En fait, tu peux pas déjà... Au départ, tu peux pas mettre un pied dehors. T'as des petites émeutes, quoi. On te court après. C'est vrai que tout le monde veut te toucher. Et t'es pas préparé. C'est un peu flippant, hein. Faut être très honnête. Mais là où c'était difficile, c'est que parfois, j'avais envie aussi de vivre comme un môme de 20 ans et de m'amuser dans la rue, faire le con, quoi. Mais le problème, c'est qu'on ne pouvait pas. Donc voilà, c'était... Je me suis très vite dit, Brahim, que tu le veuilles ou non, voilà, c'est comme ça. Il y a du bon côté, du moins bon côté, mais il y a plus de bon côté qu'autre chose. Donc on fait avec.
Nous sommes allés interroger des proches, des gens que tu as connus durant ta carrière. Dans cette émission, tu vas en découvrir quelques-uns. On va écouter John Dovi, un coéquipier, un collègue aussi, un pote, mais un collègue
frère,
aussi,
un
de travail à RMC. John Dovi sur cette médaille d'or de Brahim Asloum.
Après, il est devenu un people juste après. Il était accueilli sur tous les plateaux télé. Donc, c'était devenu plus qu'un champion olympique. Et pour nous, je dirais que c'était bien pour la boxe. On a beaucoup parlé de la boxe. Et peut-être qu'on a peut-être trop parlé de Brahim à cette époque-là. Pas assez, justement, de la boxe en général. Mais quoi qu'il en soit, on avait un super ambassadeur. Et ce qui nous a fait du bien. Et il n'a pas beaucoup changé. Il reste le même. Il reste le même branleur. Faut lui dire ça. Il fait chier encore. Il m'emmerde.
On a trop parlé de Brahim à un moment donné ou pas ? C'est difficile quand
c'est difficile pour moi d'avoir ce recul. En tout cas, j'étais exposé. Et cette exposition, bien évidemment, me mettait la pression. Donc, j'avais pas le droit de me louper. La boxe reposait plus ou moins sur mes épaules. Canapus avait, à l'époque, mon diffuseur avait investi sur moi. Les promoteurs de l'époque, les frères Acariès, croyaient dur. Dur comme fer sur mon potentiel et bien évidemment durant ma carrière voilà j'ai eu deux revers en championnat du monde et cette pression a joué là-dessus aussi quoi.
Ouais, on en reparlera évidemment de cette quête plutôt pour ces ceintures de champion du monde. T'étais dans la forme de ta vie sur ces Jeux Olympiques ?
En tout cas bien évidemment que j'étais en grande forme sinon j'aurais pas pu être champion olympique. Vous savez, celui qui gagne les Jeux Olympiques, c'est pas sans doute le meilleur technicien, c'est sans doute celui qui en veut le plus.
Alors cette forme de ta vie, ou en tout cas cette rage de vaincre, c'est ton entraîneur de l'époque, Aldo, qui nous en parle, entraîneur de l'équipe de France Cosentino, sur ce Brahim Puncher.
À l'INSEP, ça passait inaperçu, pas bon donner la leçon et tout, ça allait, mais aux Jeux Olympiques, il était tellement affûté, à chaque fois que je chez la leçon, je lui ai dit deux ou trois fois, putain, me faisait mal aux épaules et aux coudes, tu vois, mais c'était de l'électricité. Alors du coup, je lui ai dit à Dominique, écoute, tu me prends, donne-moi John Dovi, je veux bien, moi. Il me faisait mal aux épaules, et c'était vrai. Hein.
Voilà, tu faisais mal à ton entraîneur, donc il fallait que tu ailles dans une catégorie avec un entraîneur un peu plus baraque pour les entraînements, quoi.
C'est vrai que M. Aldo Costantino me disait ça, alors moi, au départ, j'avais l'impression qu'il essayait de me flatter plus qu'autre chose. J'avais du mal à y croire, et c'est vrai que durant ces années, il m'en parle encore et j'ai envie de le croire. On va dire que j'avais faim. J'étais persuadé que j'allais faire une médaille. En tout cas, je me sentais potentiellement médaillable. Et au final, ça m'a souri parce qu'il y avait une certaine innocence dans ma boxe et je croyais en ce que je faisais.
Et le destin a basculé pour Brahim Asloum. Autre papier, tu peux aller piocher dans la boîte à souvenirs pour se rappeler un autre moment de ta carrière et de ta vie d'homme.
La fille.
La fille.
Ouais, je sais ce que ça veut dire. Hein.
Mais tous les auditeurs ne sont peut-être pas au courant.
Alors, ce qu'il y a, c'est que... Alors, je vais revenir un petit peu au début. C'est que quand je vous dis que ma mère ne voulait pas que je pratique la boxe, elle ne voulait vraiment pas que je pratique parce qu'au sein de ma famille, on m'appelait la fille. Bien évidemment, famille de 10 enfants, on est 8 garçons, 2 filles, et mes aînés sont des garçons. Et ma mère, elle voulait absolument une fille quand elle m'a eu.
Donc, toi, t'arrives le quatrième, il y a déjà 3 garçons dans la famille.
Exactement, et je sais pas, ma mère a fait une fixette dessus, m'a chouchouté comme si j'étais une fille. Et c'est vrai que j'étais très fragile, j'avais des problèmes de respiration, j'avais des problèmes de croissance. J'ai d'ailleurs, pour l'anecdote, j'aurais dû faire à l'époque des piqûres d'hormones de croissance. Et heureusement que ça ne s'est pas fait parce que c'est dans les années 90 et on a eu le sang contaminé à Lyon d'ailleurs. Donc j'aurais pu mal finir. Et en fait, à la dernière visite, le docteur décide de pas poursuivre, en tout cas d'arrêter les examens et de dire à mes parents, le petit commence à grandir, donc on ne peut pas toucher. Et à l'époque, je faisais pour 16 ans, je faisais 1m42 pour 34 kilos. Donc une petite crevette, c'est vrai que j'étais assez fragile au sein de la maison, moins dehors.
Et les frères, ils étaient comment, les grands frères ?
Mes frères, ils étaient protecteurs, mais en fait, ce qu'il y a, c'est quand tu viens dans un quartier et qu'il faut, faut se débrouiller, quoi. Sinon, c'est toi la tête de Turc. Quand t'as 60 mômes ou 100 mômes dans un quartier, si t'as pas un peu de caractère, t'es cuit, quoi. C'est malheureux, mais c'est un peu la jungle. Et ce qu'il y a, c'est que mes frères avaient un peu peur pour moi, donc ils voulaient me protéger, donc ils essayaient de m'endurcir à la maison et être un peu plus durs avec moi. Avec beaucoup de bienveillance, hein. Mais c'est vrai que mon surnom, c'était la fille, parce qu'à 16 ans, je suis sur les genoux de ma mère, j'adorais qu'elle me gratte le dos. Donc voilà, j'avais ce côté très enfantin en fait, avec le recul, j'essaie de me poser la question de pourquoi je suis venu à la boxe.
Comment la fille, voilà, le petit surnom qu'on pouvait te donner dans la famille, comment la fille se met à la boxe et dit à sa maman qu'il va faire de la boxe? Parce que ta maman, elle voulait te protéger.
Non, en fait, comme j'étais très très proche de ma mère, je le suis toujours, mais c'est vrai qu'à l'époque j'étais très proche, en fait, je fais un deal avec elle. Parce qu'avec ma mère, je fonctionnais beaucoup comme ça. Donc c'est, il y a plein d'anecdotes, mais je vais en sortir qu'une. Mais le deal, c'était avec ma mère, c'était maman. Voilà, elle avait conscience que je faisais de la boxe, j'avais commencé la boxe. Donc tout le monde au sein de ma famille pensait que c'était un caprice, que j'allais prendre 2-3 marrons et que j'allais arrêter par moi-même. Et tout doucement, on me voit un petit peu résister. Puis un jour, j'interpelle ma mère et je lui dis « Maman, si je rentre de l'entraînement jamais marqué, t'as pas le droit de m'interdire. » Donc le deal, c'était ça. C'était que si je rentrais marqué par un bleu, eh ben, elle avait le droit de me dire « s'arrête la boxe ». Donc au final, j'ai adapté toute ma boxe sur la technique durant mon enfance.
Pour
pas prendre de coups et pour pas imposer, pour, en tout cas pour pas que ma mère me dise bah maintenant t'as plus le droit d'en faire.
On a contacté l'un de tes frères, c'est le troisième de la famille, non c'est le cinquième, pardonne-moi, c'est Redouane,
ouais.
Ton juste petit frère
moi.
Donc et il nous parle justement de cette enfance avec Brahim Asloum et forcément de Brahim le boxeur, ça a surpris beaucoup de gens.
Alors nous on était très stricts, on avait un père très strict. Et on avait une maman qui jonglait un peu dans les deux. Elle était autoritaire, mais elle avait beaucoup d'amour. C'est bizarre, c'est qu'on n'est pas une famille de boxeurs. Mon père a pas fait de boxe, a pratiquement pas fait de sport. Je crois qu'il avait fait un peu de foot à l'époque. Il était plus jeune, il n'y a pas dans un club, dans son quartier. Et Brahim, il est tombé amoureux de la boxe et il m'a tiré dans ce monde-là et que je ne regrette pas. Au début, je ne voulais pas. Je n'étais pas intéressé et il m'a forcé la main. Et finalement, je suis tombé amoureux à la boxe, il est parti en équipe de France et j'ai dit que moi aussi, je voulais faire la même chose et partir de chez moi et réussir et devenir un grand champion.
C'est un incroyable destin. Tu n'as pas de lien avec la boxe à la base. Tu le disais, Jallieu, petit quartier de Champfleury, on joue au rugby, on joue au foot. Mais
c'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que nous, on appartenait à un club de jeunes, et c'était le club ado Léo Lagrange. Et en fait, on nous offre des places de boxe. Et il y avait un grand de mon quartier qui s'appelait Kader Chaïb, qui était aux portes des championnats de France. C'était un peu la star du quartier. Et on nous offre des places et on décide d'y aller. Donc moi, j'y vais avec un de mes frères, le troisième, Mohamed. Et puis, avant le combat principal, je vois un petit jeune boxer qui avait 8 ans, qui boxait, qui faisait de la boxe éducative. Et la boxe éducative, c'est un jeu d'opposition. Donc les coups n'ont pas droit d'être portés. C'est vraiment basé que sur la technique. Et là, je le vois virevoltant sur le ring. Je vois une gestuelle magnifique, un style et tout ça. Et je vois plus de 1000 personnes se lever et l'applaudir, scander son nom et tout. J'ai fait « Waouh !» Et je regarde mon grand frère et je lui dis « Demain, je m'inscris à la boxe. » Et lui, spontanément, il me rit au nez. Il s'éclate de rire. Et il me regarde comme ça, il me dit « Toi, boxeur, pff, même pas en rêve. » Donc, pas plus vexé que ça, hein, mais le lendemain, je décide d'aller me renseigner. Donc, je tombe d'ailleurs sur Kader Chaïb et je lui dis « Elle est où la salle de boxe ?» Donc, il me l'indique. Elle était en ville, donc un peu plus loin de mon quartier. Donc, il y avait 4-5 kilomètres à faire à pied. Et le premier jour, j'ai fait un foot. Ben, de toute façon, c'était la fin de la saison et je me suis retrouvé à faire un foot. Donc j'ai attendu les 2 mois et je me suis mis à la boxe en septembre. Je me suis inscrit à l'UNSS, donc à la boxe scolaire. Et puis au bout d'un an, j'étais champion de France scolaire. Donc ça a été assez rapide. En fait, j'ai retrouvé une deuxième famille dans une salle de boxe. Alors, vous allez me dire, quand tu viens d'une famille nombreuse, t'as pas besoin d'une deuxième famille.
Quand on a 9 frères et sœurs, oui.
Mais quand tu n'existes pas vraiment dans ta famille, parce que t'es un peu celui qui doit faire rire tout le monde, c'est celui qui est fragile, et ainsi de suite. Donc en fait, on me donnait pas de considération. Et quand je suis allé dans cette salle de boxe, en fait, on m'a considéré comme un grand.
Tu étais quelqu'un avec les copains de la salle de boxe. Alors, tu l'as dit, il y a l'INSEP, il y a ce départ pour Paris, il y a cette équipe de France, juste avant les Jeux Olympiques. Tu intègres cette équipe de France, coéquipier John Dovey, qui est dans une autre catégorie, on en a parlé. Il était comment, Brahim Asloum, en tant que coéquipier? John Dovey doit répondre à cette question.
Il y avait toute une team à l'époque, et c'était la génération, effectivement, Sydney 2000. Et on n'avait pas eu de médaille au jeu depuis un bout de temps. Et effectivement, au sein de cette équipe, Brahim, c'était la petite catégorie, à moins de 48 kilos à l'époque. Donc un des plus jeunes aussi. Et c'était le plus gros emmerdeur que la Terre puisse porter. Il nous faisait chier, même si on l'aimait bien. Et ça constituait un des électrons libres de l'équipe. Alors il y avait, comme dans chaque équipe, il y avait les anciens, ceux qui parlaient pas trop, le rigolo, celui, la petite teigne. Et Brahim, il faisait partie de la petite teigne. Donc, avec toute la sensibilité qu'on lui connaît. Et malgré ça, sur le ring, c'était un vrai lion.
C'est ça, Brahim, à cette époque?
Oui. C'est vrai que j'étais celui qui allait taquiner un peu tout le monde. Et je ne dis pas que j'aimais bien emmerder les costauds, mais j'aimais bien les titiller, en fait, et les pousser un petit peu à bout. Et dès que je sentais que ça allait sauter, j'allais me cacher derrière John ou derrière Jean-Paul Mendy. Et comme ils avaient une certaine aura, une certaine prestance en équipe de France, la personne que j'avais un peu emmerdée se calmait tout de suite. Donc moi, ça m'amusait. Je sais que j'amusais un petit peu tout le monde. C'était un peu... J'avais l'âge qui s'y prêtait, petite catégorie, donc on tolérait quand même pas mal de choses chez moi.
Brahim, tu peux dévoiler un nouveau papier.
Allez, au hasard.
Un nouveau moment de ta carrière.
17 mois. Ça, 17 mois, c'est d'inactivité quand j'ai été champion du monde.
On reparlera un peu plus tard de ton titre de champion du monde. Mais une fois que tu es champion du monde, pour défendre ton titre, ça devient compliqué. Et tu vas passer 17 mois sans boxer.
Ouais.
Raconte-nous ça, pourquoi ?
C'est sans doute les 17 mois les plus compliqués pour moi et les 17 mois qui m'ont fait grandir à toute vitesse.
Pour donner un ordre et une temporalité, on est juste après ton titre de champion du monde,
on est fin 2007, le 27 mars 2007, je deviens champion du monde au Canet, à la ville du Canet. Et à l'époque, on venait d'acheter les droits. Alors, c'était là où les droits de télé du football commençaient à exploser. Canal+, à l'époque, avait acheté 720 millions d'euros les droits du football. Et pour ça, ils avaient réduit dans tous les autres sports. Donc, tous les autres sports ont pris un petit peu une claque dans leur budget. Et on arrive à la boxe, donc à Brahim Asloum. Moi, j'avais un contrat d'image avec la chaîne de télé. Et puis après, la chaîne de télé avait un contrat avec mon promoteur pour organiser mes événements. Donc je deviens champion du monde et quelques semaines après, quelques mois après, je dois boxer mon challenger officiel. Et puis là, mon diffuseur décide de diviser mes bourses par 3. Donc au départ, quand Monsieur Acariès me dit ça, je ne comprends pas vraiment.
Ton entraîneur,
ce qu'on dit.
Évidemment, Louis Acariès.
Exactement. Et puis il me dit, mais voilà, il y a un petit couac avec la chaîne de télévision. Ils veulent diviser par 3. Qu'est-ce que tu veux faire ?
Et toi, tu comprends pas, tu viens de devenir champion du monde.
Moi, c'est ce que je n'arrivais pas à comprendre et c'est pour ça que ça a été une période assez difficile. Donc moi, le but, c'est pas d'être que champion du monde, c'est d'aller unifier des ceintures et pour ça, il fallait des budgets. Parce que quand vous êtes champion et que vous voulez affronter un autre champion du monde dans une autre fédération, c'est un aspect financier qui va primer. Le champion en face, il a une chance de perdre sa ceinture. Et pour ça, on monnaie, parce que c'est là où ça devient intéressant pour un athlète. Il fait tout le travail pour être champion du monde. Et quand il est champion du monde, sa vraie valeur, c'est sa ceinture. Donc, bien évidemment qu'il nous fallait du budget pour ça. Et à ce moment-là, je me dis, mais Brahim, t'as pas fait tout ça dans ta vie en sachant d'où je pars, avec la dureté que je m'étais infligée. Alors, bien évidemment qu'on regarde que les bons côtés quand t'es champion. Mais je peux vous dire que c'est des points de suture, c'est du sang, c'est des dents en moins, c'est des nappes en percées, c'est des mains cassées, tu dors boxe, tu manges boxe, tu fais tout boxe quoi. Donc c'est une partie de ma vie qui est consacrée qu'à ça et en sachant que je suis pas un garçon qui triche. Et d'un coup on te dit non, ces perspectives elles n'existeront plus. Et à ce moment-là, sincèrement, je me gratte la tête et je me dis mais c'est pas normal, mais non, il y a un truc, faut que j'arrive à comprendre. Donc j'essaye de prendre contact directement avec les responsables de Canal à l'époque. Et personne ne veut me donner l'heure. Donc j'insiste et je leur demande, je dis, peu importe la décision que vous allez prendre, mais venez, on se met autour d'une table et au moins on voit ce qu'il en ressort. Par respect vis-à-vis de moi, où j'ai mis ma vie pour faire en sorte que Canal a son nouveau champion du monde, vous ne pouvez pas me laisser comme ça sans rien me dire. Et puis j'ai vraiment pas de nouvelles et à un moment donné, je lui dis, vous savez, il y a un truc que j'aime pas, c'est qu'on décide pour moi. Moi, il n'y avait pas de raison que j'aille voir un autre promoteur et je savais que c'est un business dans ce monde sportif et j'avais pas envie qu'on me prenne comme un bout de chiffon.
17 mois après ton titre de champion du monde, c'est la boxe professionnelle évidemment, tu organises donc un tournoi, un combat plutôt, le 27 avril 2009. Explique-nous l'idée du pay-per-view, ça se fait énormément maintenant. À l'époque, c'est un peu plus rare, et surtout pour un boxeur français, ça marche pas tellement.
Oui, oui, non, mais c'est clair que c'était... Bon, en tout cas, il y avait un problème à ce moment-là. Et ma réflexion, c'était de dire, parce que faut savoir que quand j'ai fait mon premier championnat du monde, j'ai allumé 2,5 millions de décodeurs sur 5 possibles. Donc c'est des records au MPG. On donnait pas à Sloom ce qu'on donnait au football. Et pourtant, tout seul, j'ai arrivé à faire un audimat très important. Ma moyenne, c'était 1 million de téléspectateurs. Donc moi, je voulais démontrer à mon ancien diffuseur que j'étais capable de générer à travers mon nom et mes performances sportives. Donc on a décidé de faire une somme symbolique, déjà pour payer les frais, et on a fait 3,80 €. Et il s'avère qu'une heure avant le combat, il y a 175 000 personnes qui veulent se connecter. Les serveurs sautent, donc pas de super bonne qualité. Et puis, le combat, je le fais quand même. Mais malheureusement, j'ai pas l'impact. En tout cas, j'arrive pas à faire résonner l'impact que ça aurait pu faire. Et si ça avait marché, sincèrement, j'aurais peut-être pas arrêté.
6 septembre 2009, tu n'as que 30 ans, c'est très jeune, tu décides d'arrêter ta carrière.
Un mot de sport maintenant, le boxeur Brahim Asloum jette l'éponge, champion olympique en 2000, mais aussi ceinture mondiale Mimouche, WBA en 2007. Le Bergevin, âgé de 30 ans maintenant, a annoncé hier qu'il mettait un terme à sa carrière, faute d'avoir trouvé un diffuseur depuis plus d'un an.
T'as volé quelque part cette fin de carrière ?
Moi, m'a enlevé 5 ans de rêve. Mais ça, je le sais, et j'ai fait une croix dessus. C'est là où je me trouve fort, si je peux me permettre, c'est que quand je décide de quelque chose, eh ben, je m'y tiens et j'ai pas de regrets.
Et malgré cet arrêt brutal de carrière, ton entraîneur historique, Louis Acariès, a quelque chose à dire.
Oui, très fier même, voilà. Peut-être on a oublié de dire quelque chose. Après sa carrière, je l'ai conseillé, intimé, de retourner à l'école. Il m'a écouté, il l'a fait. Quand passent toutes ces choses de la vie, tous ces faits, par exemple, et qui réussit, comment vous voulez pas être fier ?
Il est important hein, dans ta vie.
Ah Louis, vous savez, j'ai deux ou trois personnes qui ont été, qui sont mes mentors et qui ont été des personnes extrêmement importantes. Bien évidemment que Louis Acariès en fait partie. Et, c'est quelqu'un qui m'a pris comme son fils, et avec tout le respect que j'ai pour mon père, parce que j'en ai qu'un, c'est vrai que c'est mon deuxième papa. Il a été bienveillant avec moi, il a essayé de me faire grandir aussi bien sur le ring, mais en réalité, il a mis plus d'énergie encore pour me faire grandir en tant qu'homme. Et c'est vrai qu'on avait des grosses discussions, et même avant d'arrêter ma carrière, il me demandait de reprendre plus ou moins l'école, d'aller apprendre autre chose. Il avait conscience que ça allait m'aider pour la suite de ma carrière, qu'être un simple boxeur n'aurait pas suffi. J'avais l'impression d'être dans un puits, et que les parois sont extrêmement lisses, et qu'il n'y avait rien pour pouvoir s'agripper. Donc, je cherchais juste une petite fissure pour pouvoir, serait-ce que mettre mes ongles et pouvoir me surélever et me dire je peux remonter. Mais le problème, c'est que je me disais, mais waouh, comment on fait pour repartir ? Alors, j'ai un respect, moi, aujourd'hui, pour tous les gens qui se sont cassés la gueule et qui sont arrivés à repartir dans leur vie, peu importe dans quel domaine, hein, parce que c'est ce qu'il y a de plus dur, sans doute. Ce que m'a dit Louis n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et c'est vrai que ce qui m'a aidé aussi, c'était que de voir ma maman à 42 ans reprendre l'école, parce qu'à l'école, on l'embrouillait quand il fallait faire les devoirs ou les conseils de classe. Ma mère, elle ne comprenait pas tout. Hein. Et donc, elle a repris l'école, principalement le français, pour pouvoir surveiller nos devoirs. Et c'est vrai que quand j'ai eu cette réflexion, je me dis, si je dois faire quelque chose, Brahim, tout de suite, ben pourquoi pas aller reprendre l'école. Donc, c'est là où j'ai entamé un master droit économie du sport. Donc, je me retrouve à la Sorbonne, moi qui ai quitté l'école et que j'ai fait un BEP électrotechnique parce que j'étais en équipe de France et ma perspective c'était les Jeux et d'être un champion. C'est vrai que les études c'était pas ce qui me passionnait le plus. Et bien évidemment, quand vous vous retrouvez sur le banc de l'école le premier jour, t'es champion olympique, t'es champion du monde, tu gagnes de l'argent et d'un coup tu te retrouves là, ce qui n'était pas prévu quoi. Et en même temps, c'est la plus belle chose que j'ai faite. Parce que ça m'a permis de me baigner dans autre chose, de recôtoyer d'autres personnes, de m'intéresser du sport de l'extérieur et plus avec un regard d'athlète. Et là, ça m'a permis de m'évader, de croire en moi et de me démontrer à moi-même que j'étais capable de faire aussi autre chose que d'être un boxeur. Quoi.
La boîte à souvenirs avec Brahim Asloum continue sur RMC. Brahim, un nouveau papier dans cette émission avec toi.
Alors, Palais des Sports. Palais des Sports de Versailles, ça a été mon premier combat. Alors, je sais pas si c'est ça, mais c'était le premier combat le 29 janvier 2001.
Après ton titre de champion olympique, ouais, en 2000, à Sydney, tu passes professionnel en janvier 2001 et tes trois premiers combats se déroulent au Palais des Sports. Tu vas d'ailleurs signer trois victoires. Passer professionnel, c'était obligatoire? C'était un véritable souhait ou tu aurais pu rester amateur?
J'aurais pu arrêter la boxe après les Jeux Olympiques. En tout cas, ça m'a titillé. Je pense que j'avais fait le tour dans le rang olympique. Vous savez, quand vous faites 4 ans, vous faites vraiment un cycle entier. Je ne me revoyais pas refaire 4 ans, en fait. Et la seule condition, en fait, pour passer professionnel, c'était de passer professionnel dans les meilleures conditions. Et quand je suis champion olympique, j'ai des offres du monde entier. Vraiment, des plus gros promoteurs à travers le monde, que ce soit des Américains, les Allemands, les Anglais. Et puis, les derniers qui sont venus à moi, au final, c'est les Français, c'est les frères Acariès. Et ma réflexion, c'était, je préfère être le numéro 1 chez moi qu'être le numéro 2 à l'étranger. Et c'est là où on rentre en contact avec les frères Acariès, on met plusieurs mois de discussion. Et avant de parler d'argent, j'avais envie qu'ils sachent qui est Brahim Asloum. Donc. Et à table, en fait, puisque Louis Acariès nous rejoint pour le dessert, et à travers ces questions qu'il me posait, ça me plaisait, ça me titillait. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du déjeuner, je me lève, et je dis à Michel Acariès, je regarde, et ben je dis, si ce n'est pas votre frère qui s'occupe de moi, je ne signe pas avec vous. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris, au feeling. Et Louis a été l'une des plus belles rencontres de ma vie. Ouais.
Louis Acariès se souvient évidemment de cette rencontre.
C'est la première fois que je prenais un amateur pour le faire passer professionnel et en faire un champion. Moi, je me suis toujours occupé de professionnel, quelque part. Et puis, lorsqu'il est venu à la maison, il n'avait que 20 ans. Et ses parents me l'ont laissé, avec Muriel, ma femme, qui s'occupait de lui aussi. Comme si c'était une adoption, hein. Donc on a fait avec, puis voilà, et puis c'était une belle aventure, parce que voilà, maintenant c'est un homme...
Si c'est ton deuxième papa, lui il te considère comme son fils.
Hein. Oui, non, j'en ai conscience et ça me va. Mais pour l'anecdote, en fait, quand je valide au fond de moi que c'est Louis Acariès qui doit s'occuper de moi, je lui demande une condition. Je lui dis, par contre, j'ai besoin que tu descendes à Bourgoin-Jallieu, au sein de ma famille, que tu rencontres ma famille. Donc ok, t'as vu qui j'étais, maintenant pour être encore plus sûr de qui je suis, va voir ma famille, tu sauras réellement qui t'as en face de toi. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'avais besoin que ma mère aussi, pour la rassurer, me valide aussi mon choix, parce que je savais que j'allais encore continuer à vivre à Paris dans un monde professionnel, et dans ma famille on connaissait rien à la boxe, encore moins dans le monde professionnel. Donc j'avais besoin de la rassurer. Et en fait, donc Louis et Muriel Acariès descendent à Bourgoin-Jallieu, donc ma mère leur prépare un repas, on est à la maison et tout ça, et en fait au moment où je dois raccompagner Louis à l'hôtel, ma mère me regarde et elle m'a fait un signe de la tête en approuvant en fait mon choix, et c'est à partir de là que je savais que j'allais réellement vivre une aventure dans le monde professionnel avec Louis et Michel Acariès.
Cette aventure dans la boxe professionnelle, on en parle maintenant dans la boîte à souvenirs avec des papiers. Brahim, je te laisse tirer
allez.
Un nouveau papier dans cette boîte à souvenirs.
Il n'y en reste que deux, hein. Para et Narvarez.
Ouais, ce sont tes deux adversaires pour tes deux premières tentatives de ouais. Championnat du monde des poids mouches. On est en 2005. Tu es champion olympique depuis 5 ans. Depuis 4 ans, tu es dans la boxe professionnelle. C'est dur à gérer de perdre, justement, dans cette boxe professionnelle et de ne pas être champion du monde pour quelqu'un qui a ce statut et cette image de vainqueur.
Au départ, parce que je suis challenger officiel dans les 4 fédérations. Et en réalité, j'ai le choix. Louis Acariès et Michel Acariès me font comprendre que tu as le choix de choisir parmi un des 4 champions. Et comme je suis un peu tête de con par moment, et je vais pas dire prétentieux, mais je dis à Louis Acariès, c'est qui le meilleur des 4? Et je pense que lui imaginait que j'allais pas choisir le nom qu'elle allait me donner. Eux me dirigeaient sur un autre boxeur. Hein. Et il me dit, le meilleur des 4, c'est Para. Et je dis, c'est lui que je veux. Ma plus grosse erreur, j'ai fait abstraction de la défaite. Ça faisait plusieurs années que j'étais invaincu. J'ai accepté que ça soit dur, mais j'allais gagner. Et au premier coup de poing sur le ring, en fait, je me rends compte que c'est pas la même puissance que j'ai pu avoir sur tous les autres adversaires. Et là, je me rends compte que pour être champion du monde, la dernière marche est un tout petit peu plus haute que les autres, mais suffisamment pour trébucher. Donc, premier coup de poing que je prends, je me dis, putain, Brahim, fais attention, parce que là, ça va être chaud. Et pendant le combat, je prends conscience que je vais être dans la merde quand même, que ça va être dur, Mais je me dis pas que je vais perdre, je me dis juste que ça va être extrêmement dur. On arrive au deuxième round. Au deuxième round, je sais pas ce qui s'est passé parce que, en fait, j'ai les mains super hautes. Et en fait, je crois qu'il a vu quelque chose dans mes yeux. Il a vu que j'ai douté à un moment donné. En fait, sincèrement, je ne vois pas d'autre explication. Donc, maintenant, c'est moi qui imagine ça. Mais je vois qu'il voit une faille chez moi et il l'exploite à merveille. J'en prends une à la pointe du menton, une autre sur le haut du crâne, un gros crochet sur le haut du crâne. Je tombe à la renverse, je me retrouve sur les fesses. C'était la première fois de ma vie que j'allais sur les fesses. On est à Bercy, hein. Il y a 15 000 personnes. Je remplis Bercy. Et j'avais conscience que, voilà, tous les gens qui ont parlé en ma faveur durant toutes ces années, eh ben, on arrive au jour J, quoi. C'est, j'ai pas à les décevoir. Les gens se sont mouillés. À moi d'être à la hauteur. Et là, je me relève tout de suite parce que je fais une roulade. La seule chose que ma hantise, moi, par exemple, dans la boxe, c'était, j'ai deux hantises. La première, c'est de me faire mettre KO. Pour moi, c'est une honte absolue. Pour moi, perso, hein, je dis pas que ça l'est, la réalité. Et la deuxième, c'était de pas pouvoir toucher mon adversaire. Ça, c'est mes deux grosses angoisses quand je monte sur un ring. Donc, je tombe et je sens que je suis un peu dans le gaz. Je tangue et je me dis, bon, et je me parle. Je me dis, Brahim, putain, monte les mains. T'es pas bien, faut récupérer là, faut récupérer. Et il reste 1:30 de combat. Et le mec s'acharne sur moi. Et la seule chose que je fais, c'est que je monte les mains, je me dis, Brahim, laisse passer l'orage. Attends. Et je vois, parce que 1:30, sincèrement, c'est extrêmement long. Hein, surtout quand vous vous faites rouer de coups. Et j'attends juste à un moment donné une ouverture pour pouvoir déclencher un gros coup. Et là, j'y croyais, quoi. Je le touche de plein fouet, mais le mec bouge à peine. Le gong sonne, j'arrive dans le coin et j'entends tout ce que me dit Monsieur Akariès. Tout. Comme quoi, si t'es encore debout, tu vas être champion et ainsi de suite. Et en fait, quand je pars au combat à la deuxième reprise, en fait, j'ai un brouillard. Je suis incapable de vous dire ce qui s'est passé pendant le combat. Je ne savais même pas que j'étais sur le ring, parce qu'en fait, quand j'arrive dans le coin à la septième reprise, je vois le panneau 7 des runes, et je dis à Akariès à ce moment-là, c'est bon, là, je suis bien. Je venais de reprendre conscience que j'étais sur le ring. Donc j'ai eu entre la deuxième reprise et la septième reprise, un brouillard. J'ai dit, je sais pas qui a donné des coups, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Mais je prends conscience à la septième, mais j'y crois toujours. Mais j'étais déjà un petit peu esquinté physiquement. J'avais plus l'énergie réellement pour faire renverser la situation. Je m'incline. Et c'est là où la première fois, parce que je pensais pas le faire dans ma carrière, eh ben, j'ai levé la bras de mon adversaire et je lui dis en anglais, je lui dis, aujourd'hui, c'est toi le meilleur. Aujourd'hui. Et en fait, derrière ça, je fais 5 mois de dépression. Moi, certes, j'avais perdu, mais tous ceux qui sont avancés, eh ben, je les ai mis dans une mauvaise situation. Donc voilà, il m'a fallu 5 mois pour récupérer et savoir repartir.
Derrière, pour repartir, et pourquoi tu reprends un mec qui est invaincu encore une fois?
Parce que je peux pas me cacher derrière quoi que ce soit. Quand tu commences une carrière, que tu as des combats qui sont faits pour que tu progresses, c'est une chose. Mais à un moment donné, quand tu as le niveau mondial, tu es obligé de... En fait, je ne pouvais pas imaginer pas être champion devant le meilleur du moment. Et c'est vrai que le deuxième que je prends, c'est Omar Narvaez, un Argentin qui a aujourd'hui, qui a un record, qui a plus de 20 ou 30 championnats du monde à son actif. Moi, j'ai 26 combats professionnels. Le mec a autant de championnats du monde gagnés que moi de nombre de combats professionnels. Donc, pour vous dire la terreur que j'avais, il avait, c'est simple, c'était pratiquement impossible de le toucher. Il avait une science de sa boxe qui était super évoluée, quoi. Et mon malheur dans tout ça, c'est qu'en France, on connaissait pas les champions de ma catégorie, donc c'était pas des grands noms de la boxe, mais qui étaient des phénomènes, quoi.
Ouais, exactement. Et donc tu perds ces deux chances de championnat du monde. On va écouter Charles Bietri, que tu as très bien connu, évidemment, bien que sûr. Tu as connu ensuite dans ta reconversion, spécialiste de boxe, journaliste, qui nous parle de Brahim le boxeur. C'était qui Brahim?
Brahim, pour moi, c'est ce que j'appellerais un vrai boxeur. C'est-à-dire quelqu'un qui donne une bonne image de la boxe. Parce que c'est un garçon adroit, agile, intelligent, qui préfère donner des coups plutôt qu'en prendre. Bon, ce qui est assez logique dans le monde de la boxe, mais ce qui n'est pas si fréquent. Et qui faisait preuve d'une énorme intelligence sur le ring. Aussi bien quand il était amateur, ou alors où on pense souvent distribuer des coups plutôt qu'à faire du sport, je dirais, que chez les professionnels. C'est toujours ça qui m'a plu en lui. Si mes enfants, ou plutôt mes petits-enfants, avaient envie de faire de la boxe, j'aimerais qu'ils fassent quelque chose qui ressemble à Brahim.
C'est gentil.
le puncher et l'élégance de Brahim Asloum, avec un nouveau papier dans la boîte à souvenirs avec toi sur RMC. C'est quoi la date?
Ouais, la date, c'est le 8 décembre 2007.
Enfin champion du monde,
c'est ça.
Brahim Asloum, tu as décidé de descendre de catégorie pour gagner. Ça se passe au Canet, tu gagnes au point face à l'Argentin Juan Carlos Rebeco.
Et qui, 7 ans après, continue de nous faire rêver. Il a bien digéré ses deux revers face à Paral Narvaez. Riche en enseignements pour lui, ses deux revers lui ont permis de se construire et de devenir champion du monde. Bravo, un grand bravo à Brahim Asloum, ce petit bonhomme est grand, très très grand. Ce soir, il rentre dans l'histoire, il devient le premier Français, champion olympique et champion du monde. Bravo!
Quelle consécration.
Ouais, quel parcours. Ça a été une aventure assez exceptionnelle, avec des gens exceptionnels, avec des choses qui ont été dures à avaler, mais qui m'ont permis aussi de grandir, d'être qui je suis aujourd'hui. Et c'est vrai que ce titre de champion du monde, voilà, après avoir été champion olympique, je voulais être, alors j'ai eu cette prétention, mais je voulais être le premier boxeur français à être champion olympique, champion du monde. Je savais que quand t'es le premier, ben c'est marqué au fer rouge et c'est à vie. Il y a eu des grands champions avant moi et il y en aura des très grands après moi. Donc voilà, j'avais envie de mettre mon empreinte. Et sans doute qu'inconsciemment, je reviens à mes 8 ans et que mon complexe dû à ma taille, à ma fragilité, qui a été sans doute mon moteur, c'est d'être quelqu'un un jour, quoi. Et d'avoir fait tout ce parcours en sachant que je n'avais rien d'un boxeur. Et c'est ça qui est fou, en fait. Alors, je le dis là aujourd'hui, mais en réalité, j'avais rien d'un boxeur. Je connaissais rien à la boxe. Personne ne pratiquait la boxe chez moi. J'avais pas la carrière d'un boxeur, encore moins le mental d'un boxeur. Mais par contre, je me suis fait boxeur. Donc, j'ai travaillé pour être un vrai champion. Et ce que je prends conscience, c'est que le travail porte toujours ses fruits. Et j'ai cru en ce que je faisais et j'ai cru en ma belle étoile.
La boîte à souvenirs avec Brahim Asloum, nous avons attaqué cette émission, cette boîte à souvenirs avec ton titre olympique. On la termine avec ton titre de champion du monde. Brahim, ce n'est pas encore terminé. Dans quelques instants, nous allons sortir de la boîte sur RMC.
RMC, la boîte à souvenirs.
La sortie de boîte.
Message, question de tes proches, des gens qui ont... Voilà, sont intervenus dans ton parcours, Brahim Asloum. On va débuter avec ton frère, petit frère, le cinquième donc de la fratrie, Redouane, le message.
Alors, moi, je dis franchement, c'est un frère qui m'a fait galérer dans ma carrière parce qu'il savait très bien que c'était un monde très difficile. Je l'en ai voulu, mais aujourd'hui, avec le recul et l'âge que j'ai aujourd'hui, finalement, il avait raison. Et qui voulait me protéger, qui m'aimait et qui me mettait pas dans des bâtons dans les roues pour me faire mal, au contraire, tout pour me protéger. Et aujourd'hui, je le remercie de parcours que j'ai fait aujourd'hui et j'ai de la chance que ce parcours je l'ai fait moi-même et je suis très content. Et sans lui, je pense que j'aurais pas aussi grandi aussi vite.
J'ai pas été tendre avec mon petit frère, c'est vrai. Et c'est le meilleur frère que je peux souhaiter. Mais je l'aimais tellement que... Vous savez, quand vous êtes le champion olympique et vous êtes sur le feu des projecteurs, quand on ne peut pas vous toucher à vous, on touche ceux qui sont autour de vous. Et ce qu'il y a, c'est que je n'avais pas envie qu'ils subissent la méchanceté gratuite de certaines personnes qui seraient attaquées volontairement à mon petit frère. Quand il est rentré en équipe de France, j'ai influencé, j'ai parlé à personne. Je faisais comme si de rien n'était, mais volontairement. Je voulais qu'il réussisse par lui-même et qu'en fait, qu'on ne lui dise pas « oui, mais parce que tu es le frère d'eux ». Et je savais que c'est dur de vivre avec ça et je voulais qu'il fasse son aventure. Là où il a réussi, c'est qu'il a fait une Olympiade après moi. Il a été 5 fois champion de France. Il a fait des grosses perfs. Donc, il le doit qu'à lui. Et personne ne peut lui dire que Brahim l'a avantagé dans quoi que ce soit.
Elle a dû être contente, la maman, hein, que tu mettes ton frère, ton petit ouais. frère à la boxe également. Une question maintenant de Charles Bietri.
Brahim, j'aurais une question presque double. Est-ce que tu n'aurais pas préféré être champion du monde des lourds plutôt que champion du monde des mouches? Et alors, si on veut être plus technique, est-ce que tu peux nous dire si c'est la même chose quand on fait 50 kilos de recevoir un coup de quelqu'un qui pèse 50 kilos ou quand on fait 100 kilos de recevoir un coup de quelqu'un qui pèse 100 kilos? Débrouille-toi.
Oui, bien sûr que la catégorie reine, ça reste les poids lourds. Mais bon, j'avais pas d'illusion à me faire. Hein. Je suis pas 1m65.
Là, il fallait manger.
C'est une catégorie qui était compliquée. Mais bien évidemment que c'est la catégorie reine. Donc c'est pour ça qu'à Tony Yoka, je lui souhaite d'être champion du monde professionnel. En France, on en a rarement eu des poids lourds aussi performants que notre champion olympique. Donc c'est pour ça que j'encourage tout le monde à l'aider et peut-être à être un peu moins dur avec lui. Et on verra à la fin du bal hein, ce qu'il est capable de faire. Mais les qualités, il les a. Bien évidemment que les coups chez les poids lourds sont beaucoup plus puissants. L'inverse, ça serait mentir. Mais la difficulté qu'on peut avoir dans les petites catégories, c'est que c'est des mitraillettes de coups. Et mon cerveau est aussi épais que celui d'un poids lourd. Et quand vous recevez une mitraillette avec de la précision dans les poids lourds, je peux vous dire que ça fait très très mal. Et ça doit le faire aussi très très mal chez les poids lourds. Mais quand je vois le résultat de ma carrière, je me dis que c'était bien que je sois dans les petites catégories. J'ai gardé toute ma tête et ça me va.
Un message maintenant de Louis Acariès.
Ce que je pourrais dire à Brahim, je pourrais lui dire, fils, tu sais, maintenant tu es papa, donc tu sais ce que tu as à faire, voilà. Hein. Alors, bonne chance et que tout va bien pour toi. En premier, la santé. Et occupe-toi de tes proches, voilà. Et surtout de ta famille aussi. Hein ? Allez, à bientôt. Ciao, champion.
Ouais, et ton fils, c'est vrai que tu as basculé de l'autre côté. Il a quelques mois.
Ouais, il va avoir 3 mois dimanche.
Joseph Ali.
Ouais, nom de grand-père de ma femme et nom de mon grand-père. Alors c'est vrai que dans les médias, j'ai vu par rapport à Mohamed Ali. Non, il n'y avait rien à voir avec Mohamed Ali. Alors c'est vrai que ça fait un peu le clin d'œil. Mais voilà, mon grand-père, avant de me quitter, m'a demandé si j'avais un garçon, ça lui ferait plaisir qu'il porte son nom. Donc voilà, on a trouvé le mix avec ma femme. Oui, c'est sans doute aujourd'hui, c'est pour ça que quand je dis de Louis ou d'autres personnes qui m'ont aidé, c'est les plus belles rencontres de ma vie. Je dis maintenant, ils font partie des plus belles rencontres de ma vie, parce que la plus belle rencontre de ma vie, ça reste ma femme et mon enfant. Et c'est vrai que je suis épanoui parce que je vis autre chose et voilà, j'ai l'âge pour. Quand je rentre à la maison et que je bois ce bout, ça y est, je suis apaisé quoi. Il n'y a plus rien qui.
Je pouvais pas le faire en pleine carrière
et sans doute que j'avais besoin de ça. Alors, j'espère lui donner les valeurs
moitié idéales.
Par
moins, il faut la trouver la moitié.
Et plus mon bagage à moi perso.
Et je suis content d'avoir trouvé.
J'ai hâte qu'il grandisse. J'ai hâte de lui apprendre des choses. Mais c'est vrai que dans une carrière,
j'espère que
si j'avais eu un enfant, en fait,
son papa,
j'aurais pas pu m'envoyer 4 mois à l'étranger pour me préparer.
C'est ce que je me souhaite en réalité.
Ouais,
parce que je sais que j'aurais négligé ou ma vie de famille ou ma carrière
avec ton enfant, c'est pareil.
Quand t'es sportif, faut être un petit
John
peu
Dovi,
égoïste.
Donc là, c'est l'équipe de France. Il a une petite question.
La carrière, c'était l'instant présent et je me souhaitais d'avoir une famille, en tout cas de fonder ma propre famille.
Est-ce qu'il serait prêt à refaire un comeback? Et s'il fait le comeback, je vais bien être son promoteur et je vais bien arranger son premier combat.
40 ans, le comeback, c'est possible ou pas?
C'est possible, mais je ne crois pas au comeback. Vous savez, dans ma carrière, je me suis interdit d'être fan de la lumière et je me dis si elle doit s'éteindre demain, ça me va. Et aujourd'hui, sur le ring, la lumière doit appartenir à d'autres athlètes. Mais voilà, mon devoir aujourd'hui, c'est d'aider en tout cas à faire en sorte que la boxe reparte de plus belle et de faire rêver les mômes. Voilà, mon devoir, c'est plus ou moins ça après avoir fait ma carrière.
Un nouveau message, Aldo, ton coach en équipe de France.
Salut Brahim, je souhaiterais. Déjà pour la boxe, que tu t'occupes tout le temps de la boxe et des organisations. Voilà, aussi bien amateur que professionnel. Parce qu'il ne faut absolument pas que la boxe soit dénigrée par des gens. Et tout ça, je veux que les boxeurs soient tout le temps mis en avant. Voilà, comme toi. Toi, tu as été un exemple.
C'est très beau ce qu'il dit, monsieur Aldo, parce qu'il a été quelqu'un d'important dans ma carrière, comme monsieur Dominique Natto aussi. Mais c'est vrai qu'Aldo, quand j'ai attaqué l'équipe de France amateur, voilà, c'est les premiers qui m'a donné les vrais outils pour pouvoir rivaliser avec le monde. Et aujourd'hui, de l'entendre penser ça de moi, ça me touche. En tout cas, je fais tout aujourd'hui. Pour aider mon sport, pour la représenter de la meilleure des manières et pour la mettre à la place qu'elle mérite. Mais c'est vrai que 2024 arrive à grande vitesse et si je peux contribuer à préparer cette nouvelle génération sportivement et médiatiquement, de les mettre dans les meilleures dispositions, oui, je le fais avec grand plaisir.
La boîte à souvenirs avec Brahim Asloum. Nous sommes sortis de la boîte et tu le sais, j'imagine, Brahim, quand on sort de boîte, il peut y avoir quelques problèmes. Nous allons passer à l'interrogatoire avec toi, Brahim Asloum. Le meilleur boxeur que tu aies croisé?
J'en ai rencontré plusieurs, donc c'est dur de dire qui. Mais les deux noms qui vont me venir à l'instant, ça va être Mohamed Ali. Mais j'ai pas osé les déranger, en fait. Il y avait énormément de monde autour de lui, je le voyais au loin. Donc voilà, j'étais une fierté de l'apercevoir. Et celui que j'ai rencontré un petit peu, oui, c'est Oscar De La Hoya, parce que sa carrière a été exemplaire. Et c'est un boxeur qui est extrêmement intelligent. Il l'a démontré sur le ring et en dehors. Donc j'aime ce genre de personnage.
Le boxeur que tu ne voudrais pas dans ton équipe?
J'aime pas les fouteurs de merde. Donc vous savez, dans le Paris United, à l'époque où j'ai monté l'équipe, je citerai pas son nom, mais j'ai eu un boxeur qui était le plus performant de l'équipe, très turbulent, compliqué à gérer. Et malheureusement, j'ai dû m'en séparer.
Ah bah oui, c'est Tony Yoka.
Non, Tony était génial. C'était une belle rencontre déjà à ce moment-là. Non, mais c'est un autre boxeur qui avait deux marteaux dans les poings et. Et puis, il fallait s'en séparer parce que ça nuisait au groupe. Mais en même temps, c'est comme ça que j'ai appris qu'une équipe, ça se gère aussi dans son ensemble et faut faire attention.
Le plus gros frappeur que tu connaisses?
Le plus gros frappeur que je connaisse, avec qui j'ai mis les gants ou
Pas forcément.
Ouais, c'est Mike Tyson. Pour moi, ça a été. C'est le premier boxeur qui m'a fait rêver à travers son punch et sa fougue sur le ring, quoi.
La salle où tu aurais rêvé de combattre?
Il y en a plusieurs, mais le Madison Square Garden à New York, parce que c'est la mecque de la boxe. Vegas, parce que c'est Vegas aussi. Mais j'aurais aimé faire ça aussi dans un stade de foot en France, par exemple.
Ouais, moi, je pensais à la Halle Carpentier, mais visiblement, c'était pas ça.
Non, c'est pas
le
ça.
Combat que tu rêves d'organiser?
Le combat que je rêve d'organiser... On est dans du dream, hein, on est d'accord?
Ouais, bien sûr.
Ça serait le championnat du monde de Tony Yoka.
C'est possible, ça?
Je sais pas si c'est possible, la vie elle est longue. En tout cas, Tony est bien entouré, en tout cas il a déjà des personnes autour de lui, donc j'aurais pas la prétention de les remplacer. D'organiser le combat du prochain qui prendrait ma relève, c'est pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est le max là, hein.
La dernière fois que tu as pleuré, Brahim?
La naissance de mon bébé.
Et ton plus beau moment d'antenne?
J'en vis tellement en ce moment avec les poids lourds qu'on commente sur nos chaînes. Sincèrement, tous les combats de Joshua, on a la chance de les commenter dans des lieux, dans des confrontations assez incroyables. Ça et les Jeux Olympiques de Rio, c'est mes commentaires les plus forts que j'ai, quoi.
Nous, on a retrouvé quelque chose lors des Jeux Olympiques de Rio, justement, où tu as un coup de gueule à faire passer par rapport à un sport très contesté, même si l'équipe de France a eu des médailles. Et on le sent, tu as les boules. Brahim Asloum.
Là, il y a 6 médailles, c'est le moment où il faut que je l'ouvre. Voilà. Donc je dis honnêtement, arrêtez de nous foutre de notre gueule. Voilà. C'est des mômes qui sont déjà discriminés du lieu, socialement. Ils ne s'en plaignent pas, moi je me plains pas, hein. Mais par contre, quand j'ai un palier, un ascenseur, laisse-moi le prendre. J'en ai marre qu'il sente la pisse, cet ascenseur.
Merci beaucoup, Brahim.
Merci à vous.
C'était un plaisir. Demain, Lionel Charbonnier, champion du monde 98, ouvrira à son tour la boîte à souvenirs à partir de 20h sur RMC. Un grand merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Pierre Amiche, le producteur, Suzanne Folly, à la réalisation, et Nicolas Pelletier, notre journaliste. Brahim, tu as commencé cette émission. Je vais te laisser la terminer et parler à nos auditeurs. C'est à toi. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Je vous souhaite tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Ça a été un plaisir de partager avec vous ces moments qui ont été chers dans ma vie, qui ont été importants. Et je vous souhaite le meilleur pour vous, vos enfants, vos proches. Et que Dieu vous bénisse.
RMC, la boîte à souvenirs.